Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire.
Bonsoir Laura Foy, on est ravis de vous accueillir dans le podcast Pourquoi tu cries ? Vous venez de publier une thèse qui s'intitule « Quand la race fait école, place et rôle de la race dans l'activité professionnelle des enseignants des territoires hyper paupérisés ». Et je me suis demandé qu'est-ce qui vous a mené à ce sujet ?
Ben, en fait, c'est quand j'ai commencé à exercer en éducation prioritaire, renforcée, j'avais lu un truc de Bourdieu où il racontait que les collèges, c'était un espace qui réunissait des gens que tout oppose. Je pense qu'il était établissement du secondaire. Et des gens que tout oppose parce que ben, d'un côté, il y a des publics qui sont diversifiés, qui ne sont pas tant diversifiés que ça en fait en fonction des établissements scolaires puisqu'il y a une ségrégation socio-ethno-géographique qui, du fait de la carte scolaire, est renforcée, s'est renforcée en réalité dans les établissements scolaires. Et du coup, moi, je me suis juste demandé au départ, cette différence, comment elle est signifiée dans la pratique ? Et c'est quoi les critères de la différence, les critères qui sont utilisés pour signifier l'opposition, en fait. Donc moi, j'étais en éducation prioritaire renforcée, donc ça veut dire des enseignants qui sont massivement blancs, qui ont globalement entre un bac plus 3 et un bac plus 5, selon le moment où ils ont passé le concours, qui ont des revenus qui sont ceux des enseignants, mais avec la prime REP+, donc en gros, ça va quoi, quand on vit à Marseille. Et dans les territoires REP+, des élèves qui sont plutôt super pauvres et qui appartiennent massivement aux groupes raciaux minoritaires. Au début, je faisais vraiment une espèce d'ethnographie comme ça, puis je notais, j'avais un journal de terrain, et je notais les propos qui signifiaient l'altérisation, la mise à distance, en fait, par les enseignants des publics. En plus, c'était ma première année dans l'école, donc je n'avais pas commencé direct. Donc, première année de thèse et changement d'école. Donc, j'étais dans une nouvelle école. Donc, je n'avais pas commencé à faire direct les entretiens parce que j'avais un nouveau niveau, je ne connaissais pas l'équipe. Et juste, je prenais des notes au quotidien sur la manière dont les enseignants parlaient des élèves. Et puis, les vacances arrivent et là, je reprends. Mais là, je n'avais vraiment pas une idée hyper fixe, en fait, sur la question de la race. J'avais juste une idée sur l'altérité, quoi. Enfin, la construction de l'altérité. Puis je reprends mes notes, et là je me dis, mais merde, en fait, c'est quasiment tout le temps la question raciale. La question raciale avec ses variations, c'est-à-dire qu'elle peut être signifiée à partir de divers contenus, en fait, qui sont investis racialement, donc ça peut être la religion, enfin, l'islam, en fait, pas toutes les religions, hein, vraiment spécifiquement l'islam. Ça peut être la thématique culturelle qui sert d'euphémisation à la race, ça peut être des mots qui signifient l'extranéité, alors qu'on parle d'élèves qui sont en fait nés en France et qui sont français, donc ils sont désignés comme algériens, comoriens, même les élèves maorais en fait, ils tombent dans l'extranéité alors que théoriquement non, mais c'est là que en fait j'ai construit vraiment ma question de recherche autour de la question raciale. Mais c'était pas un a priori que j'avais à la base. À la base, c'était les élèves, ils sont ultra pauvres, vraiment. Enfin, c'est des territoires qui sont hyper paupérisés. C'est pas la pauvreté ordinaire comme on se l'imagine, genre les femmes moins difficiles, je me serre un peu la ceinture et puis j'achèterai du fond de teint le mois prochain. C'est des familles qui parfois ont des difficultés pour accéder au logement, pour se nourrir, pour s'habiller. C'est vraiment une situation d'ultra précarité. Et en même temps, des élèves qui appartiennent aux groupes raciaux minoritaires. Et tout ça, ça s'articule dans les discours des enseignants pour signifier l'altérité, avec le critère racial qui sert vraiment de pivot, en fait.
Ça se passe à Marseille ?
Ouais.
Et l'entièreté de vos recherches va se dérouler dans l'école où vous avez été nommée ?
Pas du tout. Moi, dans mon terrain d'enquête, il y a 29 écoles. En REP+. Donc, principalement les quartiers nord, mais aussi 3e. Donc, c'est pas vraiment les quartiers nord.
Et vous les avez choisis comment, justement ?
Bon, je les ai pas choisis, en fait. Ça a été vraiment des trucs d'opportunité, c'est-à-dire que quand je rencontrais des enseignants, donc soit dans des collectifs militants, genre le collectif d'école du 3e ou des trucs comme ça, j'en profitais pour dire « Ah bah attends, tu veux pas faire un entretien ? Bah je viens dans ton école, bam bam bam. » Ou alors quand je les rencontrais sur des animations pédagogiques. C'est-à-dire que c'était vraiment des trucs d'opportunité qui me permettaient d'avoir un contact, en fait, dans une école et donc d'entrer dans l'école ensuite. Mais il n'y a pas eu un choix stratégique, genre uniquement les quartiers nord ou... C'était vraiment, en fait... Est-ce que j'ai accès à une école et si j'y ai accès, j'y vais.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Est-ce que dans les entretiens, vous emmenez ce mot race auprès des enseignants, ou est-ce que c'est quelque chose qui apparaît au fil des entretiens, ou alors qui n'apparaît jamais ?
Alors en fait, le mot race, il n'apparaît pas. Moi, je ne l'amène pas. Je ne l'amène pas parce que c'est un mot qui est hyper tabou. Et la plupart des gens disent les races n'existent pas. Et ils n'ont pas totalement tort, puisque d'un point de vue strictement biologique, ça n'existe pas. Sauf que de fait, le racisme existe. Et donc ça veut bien dire qu'il y a un critère en fait, du racisme. Et ce critère, c'est le critère racial, entendu en tant que construction sociale. Donc sans aucun fondement biologique, sans aucun fondement naturel. La race, c'est pas un genre naturel. Mais par contre, c'est une construction sociale qui est tout aussi solide qu'un fait naturel. Et moi, je ne l'utilise pas, parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les enseignants vont l'amener et quels termes, en fait, viennent signifier la race. Puisque la race n'est jamais signifiée à partir du mot race. Et massivement, les enseignants que j'ai rencontrés n'utilisent pas, refusent explicitement, au nom de l'antiracisme, le recours au mot race. Et ils sont assez catégoriques là-dessus, et ils me disent vraiment « Ah non, mais la race n'existe pas et tout. » Et ouais, gars, mais le racisme, il existe, alors du coup, comment on fait ?
Et qu'est-ce qu'ils utilisent comme mot ?
Ethnie, beaucoup. Donc le mot ethnie, le mot culture, et ben, l'islam qui sert à constituer les musulmans et les musulmanes en groupe racial.
Et qu'est-ce que vous avez touché du doigt à travers vos recherches que vous ne vous attendiez pas du tout à trouver au fil des entretiens ?
La thématique de la blanchité. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas du tout partie sur ça, et en fait, je me suis rendu compte, enfin, plein de choses en fait, parce qu'en vrai, je n'avais pas du tout anticipé mes résultats de recherche, mais moi, ce qui m'a surpris, c'est la thématique de la blanchité, et de voir finalement que quand on pense la race, très souvent, on la pense pour signifier la minorité raciale. Et la minorité, elle n'existe qu'avec la majorité, et il n'y a pas de personnes racisées sans personnes racisantes. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la question raciale, elle servait à former un « nous ». C'est-à-dire que le « nous » professionnel des enseignants, il se reconfigure et il emprunte à la question raciale pour se signifier. Donc il y a eu ça. Et il y a eu aussi, finalement, la diversité des modes de racialisation qui, dans les entretiens et dans les discours des enseignants, parce que moi, je n'ai pas que des entretiens, j'ai aussi pas mal d'observations ethnographiques et donc de notes de terrain. Donc cette diversité, elle se manifeste dans les différents types d'investissements raciaux qui sont faits. C'est-à-dire que les enseignants ne vont pas tous investir racialement les mêmes thématiques. Et du coup, j'ai construit des profils d'enseignants en fonction des thématiques qui étaient investies racialement. Donc il y a des enseignants qui vont racialiser la classe sociale et qui ne vont finalement pas parler de race, très peu parler d'ethnie, pas forcément parler d'extranéité, mais qui vont penser la classe sociale et la pauvreté comme un groupe racial avec les caractéristiques de la race, c'est-à-dire l'hérédité et l'irréversibilité. Et finalement, la pauvreté devient aussi une dimension morale de l'individu. Et donc très souvent, c'est des enseignants en début de carrière qui sont dans un investissement un peu missionnaire de leur métier, qui vont fortement en fait assigner les parents d'élèves à l'altérité, qui vont avoir un discours très misérabiliste sur les parents, les familles, les territoires, etc. Et qui en même temps vont se présenter comme étant là pour sauver les élèves en les arrachant à un milieu familial dangereux, pathogène, délétère. Alors ce profil, il est vraiment de début de carrière. Et finalement, assez rapidement, les enseignants vont investir plus explicitement les thématiques raciales. C'est ce qui me fait penser que finalement, l'espace scolaire et les socialisations professionnelles sont un espace de banalisation du référentiel racial. Il y a des enseignants qui vont mobiliser la question raciale dans son euphémisation en termes d'ethnie pour affirmer leur expertise professionnelle. Et là, la race fonctionne vraiment comme un savoir tabou. Et donc, ça se manifeste à la fois par des affirmations de proximité avec les publics. Donc, un enseignant qui me raconte que bah, lui, à la kermesse de l'école, il a même dansé avec des mamans d'élèves, hein, dire s'il en est proche. Un autre enseignant qui me dit que lui, certaines mamans, il leur fait la bise. Et puis, il les appelle par leur prénom. Et donc, il signifie la proximité. Et en même temps, c'est des enseignants qui vont vraiment mobiliser le terme ethnie, ethnique. Une très forte culturalisation qui se présente comme une expertise professionnelle. Et ça, c'était uniquement des hommes. Donc ça en dit aussi la manière dont le genre en fait façonne notre rapport au monde. Et les mecs, ils aiment bien rouler des mécaniques et dire « Ouais, moi, je suis un super patron et je connais tout et je suis trop fort. » Des enseignants qui étaient soit sur des postes de direction, soit dans le métier depuis 15 ans. Enfin, des enseignants en fait experts. Experts en termes d'ancienneté, perçus comme des experts. Et du coup, ça, c'est vraiment embêtant parce que quand un enseignant est perçu comme expert, son discours devient délisant. Et donc, c'est des enseignants qui vont très fortement diffuser et banaliser le recours aux catégories raciales. Il y a d'autres enseignants qui vont investir racialement les valeurs de la République. Et donc, en fait, là, ça va signifier autour de thèmes comme la laïcité. Et ça, c'est évidemment très informé par l'institution, puisque Il y a tout un truc où l'école, en fait, c'est le fer de lance de la politique républicaine, de défense de la laïcité, une laïcité vraiment offensive et parfois utilisée de manière discriminatoire contre les publics musulmans. La lutte contre la radicalisation aussi, où l'école est présentée comme ayant un rôle à jouer. Alors là, c'est des enseignantes qui investissent la thématique de l'égalité entre les femmes et les hommes pour, au nom du féminisme, affirmer l'altérité des populations musulmanes. Et là, c'est vraiment... Les populations sont décrites, ciblées à partir du critère religieux, mais qui les constituent en groupe racial. Et heureusement, et ça quand même, ça donne la pêche, il y a des enseignants qui ont un regard très réflexif sur ça, c'est-à-dire que eux, même si parfois ils vont être dans des pratiques ou des discours qui sont un peu culturalisants, racialisants, etc. Enfin, la race, de toute façon, c'est une norme sociale, on est tous construits là-dedans, donc c'est un peu difficile d'y échapper, quoi. C'est comme dire, oh, bah, moi j'échappe complètement au patriarcat, bah, moi la vérité, j'y échappe pas. Hein. Et donc, bah, ils y échappent pas, mais en même temps, ils s'en rendent compte. Et ça s'est vraiment senti dans les entretiens où ils pouvaient revenir sur des trucs qu'ils avaient dit. Par exemple, un enseignant, il me parlait d'une élève qu'il avait décrite comme gitane en me disant que bah ouais, pour elle, c'est plus dur que pour son frère, ses parents, ils s'en foutent parce que tu sais, les filles. Puis on parle d'autre chose, et puis 5 minutes après, il revient et il me dit, bah tu vois, là, je t'ai parlé de cet élève, bah peut-être que mes constructions et mes représentations sur les gitans, elles sont aussi interrogées parce qu'après tout, en fait, on parle de rapports sociaux de genre, quoi, au sein d'une fratrie, certes, et puis d'investissement aussi genré des enfants par les parents, mais ça a peut-être rien à voir avec le fait qu'ils soient gitans. Et donc, c'est des enseignants voilà, qui vont avoir un regard réflexif sur leur discours, sur leur pratique, un regard critique aussi sur le rôle de l'institution dans sa manière d'être modélisante et d'orienter des pratiques et d'orienter des discours ou de banaliser certaines thématiques, de les rendre légitimes. Ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que c'est des enseignants qui étaient aussi, qui investissaient leur professionnalité. Donc, qui étaient engagés dans des pratiques de développement professionnel. Donc, ça peut être le CAFIPEMF, c'est le truc pour être maître formateur, en fait, ou conseiller PEDA, qui étaient engagés, par exemple, à l'ICEM, donc le truc des PEDA freinés. Enfin, je résume, enfin, je caricature, mais voilà, dans des collectifs d'enseignants pour développer les pédagogies coopératives et tout. Et en fait, c'est pas anecdotique, ce truc-là, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que le discours raciste des enseignants, parce qu'en fait, très souvent, on parle de discours racialisant et tout, mais il faut appeler un chat, ce discours racialisant, c'est un discours raciste. Ce discours raciste, il ne repose quasiment jamais sur de l'idéologie. Et tous les enseignants se veulent non-racistes, si ce n'est antiracistes. Même les enseignants qui m'ont sorti les pires discours. Genre une enseignante, elle me disait, bah moi, tu vois, les Algériens, je les connais bien, c'est tous des gros, gros, gros menteurs, et puis bah, ils ont la haine de la France, ça, c'est à cause de la guerre d'Algérie, mais et ils cultivent cette haine, et on va vers un choc des civilisations, enfin une guerre des civilisations, et moi, mon seul espoir, c'est que tous les vieux Algériens qui ont connu la guerre d'Algérie, bah, ils finissent par mourir parce qu'ils ne seront plus là pour diffuser... et porter la mémoire de la colonisation et diffuser ce discours de haine. Donc c'est ultra hardcore. Enfin, moi, elle me disait ça, je pensais à ma daronne, j'étais en PLS, quoi. Parce que ma daronne, elle est algérienne. Et elle est née en Algérie coloniale. Je me dis, mais comment je continue cet entretien? J'avais envie de lui péter à la gueule à la fille. Et évidemment, je ne vais pas péter à la gueule parce que j'étais tiraillée entre choper des données, me dire, mais c'est hyper intéressant pour ma thèse, et en même temps, mais j'ai pas de face, quoi. Je la laisse dire ça et j'ai pas de face. Et en même temps, je me disais, mais si je lui dis maintenant, meuf, je suis franco-algérienne, moi, ma daronne, elle est algérienne, tu sais à qui tu parles? Mais je lui donnais raison, parce qu'elle m'avait sorti tout un truc sur les Algériens qui sont manipulateurs, qui te la font à l'envers et tout. Elle se dit « Waouh, la meuf, c'est une Algérienne infiltrée et tout, elle a voulu me la faire à l'envers. Enfin, » Tu vois, j'étais vraiment, genre j'avais complètement décroché de l'entretien à ce moment-là. J'étais là « Ouais, ouais, elle parlait, je disais « Ouais, ah ouais, ouais. » Et bon. Et bon, bref, et cette nana-là, elle explique aussi, alors ça c'était ouf, mais c'est pas que elle, hein. Beaucoup d'enseignants vont expliquer le climat scolaire des établissements par la composition raciale de ces établissements. Et alors ça, un truc qui est vachement revenu, c'est que les établissements scolaires dans lesquels il y a une majorité d'élèves algériens, bah, c'est des établissements ultra violents où ça pète dans tous les sens, alors que les établissements scolaires où il y a une majorité d'élèves comoriens, bon, quand ils disent comoriens, je pense qu'il faut comprendre aussi maorais, enfin bon bref, des élèves noirs quoi, c'est hyper calme. Et elle me disait, mais ouais, les comoriens, ils sont cool, ils sont zen, ils sont détente, alors que les Algériens, c'est des gros vénères. Et ça, c'est un truc qui est revenu dans pas mal d'entretiens, avec plus ou moins de justification. Donc elle avait son espèce de justification historique. Et elle me disait, mais moi, je suis antiraciste, Le Pen, il me dégoûte. Je disais, meuf, va voir un psy, quoi. Enfin, règle cette espèce de dissonance, parce que... Mais bon, elle était assez tranquille avec ça, la nana. Et donc voilà, même des enseignants qui tiennent ce type de discours se disent non-racistes ou même antiracistes. Et donc oui, il n'y a pas d'idéologie raciale dans le racisme des enseignants, ça ne s'appuie pas sur de l'idéologie, vraiment sur une adhésion en fait la doctrine de l'inégalité des races et tout, ça pas du tout. Par contre, c'est vraiment une stratégie d'externalisation de la difficulté professionnelle. Et sa difficulté professionnelle, elle est réelle. déjà dans les quartiers nord, puis dans le troisième et tout, les établissements scolaires, enfin les écoles, elles sont très souvent indignes. C'est des conditions à la fois d'exercice professionnel, mais surtout d'apprentissage, qui sont dégradantes pour les individus. Il y a une difficulté professionnelle aussi, parce que dans la labellisation REP+, il y a le taux de retard à l'entrée en sixième, puisque c'est les collèges en fait tête de réseau qui sont labellisés, et le nombre d'élèves étrangers, donc le pourcentage d'élèves étrangers. Et il y a aussi l'IPS des familles, etc. Le taux de résidence dans un QPV, bref. Sauf que, élève étranger, potentiellement élève allophone, taux de retard à l'entrée en sixième, ça veut dire difficulté scolaire. Alors, certes, cette difficulté, elle est aussi construite, c'est aussi une représentation, la manière dont on pense la difficulté. Mais pour des enseignants qui ont un programme et des objectifs à atteindre, c'est une difficulté professionnelle. Des enfants qui sont allophones, c'est une difficulté professionnelle parce que ça demande une adaptation des pratiques, une réflexion sur comment on enseigne. Pareil, des enfants dont le français n'est pas la langue familiale, ça demande aussi une réflexion sur l'enseignement de la langue, de l'étude de la langue. Par exemple, il y a un truc qui est hyper à la mode, c'est la méthode Picot, et moi je trouve ça assez cool, potentiellement. Enfin, il y a des trucs grave cool dans la méthode Picot. Le principe de la méthode Picot, l'idée sur laquelle repose cette méthode, c'est que les enfants ont une forte intuition de la langue et donc ils font des transpositions à l'oral et ensuite ils écrivent et donc ils peuvent repérer les changements. Par exemple, si je dis « je fais du cheval » et c'est pas « je qui fait du cheval », c'est « nous ».« Nous faisons du cheval ». Ah ouais, y a un mot qui a changé, il a changé avec la personne. « Je fais du cheval », mets la phrase au passé. « Je faisais du cheval », c'est quoi le mot qui a changé ?« Faisais », il change avec la personne, il change avec le temps, c'est un mot qui se conjugue, c'est le verbe. Ça, ça demande une intuition, une habileté dans la manipulation de la langue. Et les élèves, en REP+, ils y arrivent super bien, mais un peu plus tard, ils y arrivent, il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, vraiment, c'est des bons élèves, quoi. Mais l'intuition de la langue se construit progressivement à l'école quand le français, ce n'est pas leur langue familiale, et ça ne veut pas dire qu'ils n'y arriveront jamais. Ça veut simplement dire qu'il y a certaines méthodes, certains outils, on va les utiliser différemment, ou plutôt en cycle 3 et pas en cycle 2, enfin... Voilà, ça demande une réflexion sur ces pratiques pédagogiques et didactiques, en l'occurrence didactiques. C'est une difficulté. C'est d'autant plus une difficulté quand les enseignants sont débutants. Et en fait, en REP+, c'est des enseignants en début de carrière. Moi, sur les enseignants que j'ai rencontrés, quand je leur demandais comment t'es arrivé en REP+, ils me disent je leur disais pourquoi au début. Ils me disaient pas un choix, quoi. C'est que il n'y avait pas de poste, et du coup, je suis passée au deuxième mouvement, et on m'a mis là, et tu vois, je suis sur trois quart-temps, enfin quatre quart-temps. Et en fait, ce n'était pas un choix. Et du coup, cette difficulté professionnelle, la reporter sur des publics dont on naturalise la difficulté, dont on naturalise le rapport à l'école, dont tout ça est naturalisé, c'est pratique parce que ça permet de se dire, en fait, moi, je m'en sors, moi, j'y arrive, et ce n'est pas moi le problème, ce n'est pas mes pratiques le problème. Le problème, c'est le public. Donc du coup, ça nous redonne grave le moral, quoi. Et on se dit, ouais, je suis trop fort, en fait. Moi, je suis bonne instite, quoi. J'assure grave. Alors qu'en vrai, gars, t'assures peut-être pas. Et c'est pas grave, en fait. C'est normal quand on débute de pas assurer. Mais donc, du coup, voilà, c'est une stratégie d'externalisation de la difficulté professionnelle, de transfert de l'indignité et du mépris sur les publics. En fait, c'est une stratégie de survie professionnelle, la racialisation, avant tout. Pas très idéologique. Et d'ailleurs, ça se voit parce que la saillance de la race, elle est variable dans les écoles. Et elle est beaucoup plus forte quand il y a une crise. Par exemple, s'il y a une embrouille avec un parent d'élève, s'il y a un événement violent dans l'école, s'il se passe quelque chose comme ça, tout d'un coup, la question de la race devient extrêmement saillante. Alors que quand tout est cool, que tout est apaisé, que ça se passe bien, que la question raciale est beaucoup moins saillante.
Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, le sexiste et libéral, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais, camarade, je suis français, mais je me soigne.
Est-ce qu'il y a cette conscience du nous, justement, du corps des enseignants, d'être blanc et face à un autre public, ou pareil, c'est quelque chose qui n'est pas forcément conscientisé et exprimé ?
Eh ben non, en fait. En fait, c'était un sociologue américain qui disait qu'aux États-Unis, être blanc, c'était ne pas avoir à y penser, puis ça a été repris par des pentes, mais je ne me rappelle plus le nom de la personne qui l'avait dit initialement, mais en fait, c'est ça. Être blanc, c'est genre, j'y pense pas. Et ça, c'est quelque chose qui est ressorti dans mes entretiens. Il y avait 7 enseignants qui appartenaient à des groupes raciaux minoritaires, et ces 7 enseignants se sont définis à partir du critère racial. Une enseignante qui me dit, moi, je suis en tant que femme marocaine, en tant que femme arabe, en tant que femme noire. C'était beaucoup des femmes. En fait, il y avait un homme, mais qui lui était blanc, mais qui s'était converti à l'islam. Et pareil, qui a amené cette question assez rapidement dans l'entretien. Alors que les blancs, eux, se définissaient dans leur capacité à incarner l'universel. C'est-à-dire que les rares moments où ils se sont définis, j'ai envie de dire racialement, mais en fait non, c'était pas en tant que blanc. C'était citoyen du monde, voilà, un mec qui me parle de ses voyages et il se définissait comme citoyen du monde. Je crois que citoyen du monde, j'ai eu 3-4 fois. Et en fait, se définir comme citoyen du monde, c'est bien se définir comme capable d'incarner cet l'universel. Alors que les publics, eux, sont définis dans leur, par leur altérité et leur singularité. Mais donc non, il n'y a pas de verbalisation. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une conscience, ça, je ne suis pas dans la tête des gens, quoi. Mais en tout cas, il n'y a pas de verbalisation et d'explicitation de l'identité blanche. Mais par contre, il y a une mobilisation de la blanchité dans l'affirmation du nous professionnel. C'est-à-dire que le nous professionnel, il est très fortement articulé à la question raciale. Par exemple, voilà, sur des moments de convivialité, de tout de suite parler de saucisson vin rouge, ou à un moment, voilà, j'assistais à une réunion d'équipe où il parlait de... Donc d'un dispositif qui s'appelle Plus fort que la violence et où on... Voilà, l'idée c'était de créer de la cohésion et donc il parlait d'une proposition à faire aux élèves et donc il fallait mettre les élèves en rond, en cercle, et puis chacun devait avancer d'un pas quand il était concerné par une proposition et comme ça, ça leur permettait de voir que bah, ils avaient plein de points communs. Et là, il y a une enseignante qui dit « Ouais, qui mange du porc ?» Et puis un autre qui dit bah, « Personne ne va avancer » et elle répond « Bah si, nous, on va avancer. » Et donc ce « nous », ça voulait dire les enseignants. Donc tous les enseignants, a priori, mangent du porc, donc ne sont pas musulmans. Et donc voilà, c'est sur des espèces de significations comme ça, implicites, un peu euphémisées, mais en fait quotidiennes de la thématique raciale.
La présentation de la thèse, elle est récente, c'était en mars là, de cette année. Ouais. Mais est-ce que tu as eu des échanges sur cette thèse avec les enseignants que tu avais rencontrés, ou est-ce que tu veux... faire de cette thèse quelque chose qui puisse être réutilisé et servir à se questionner, etc. Donc, je ne sais pas, la publier sous forme de livre ou ce genre de choses. Qu'est-ce que tu imagines, toi, suite à ça ?
Des échanges avec les enseignants sur la thématique, forcément, j'en ai eu. J'en ai eu avec, du coup, principalement, en fait, le groupe d'enseignants que j'avais appelé « Déconstruit » dans ma thèse. Mais en fait, ça ne marche pas, tu vois. Après, j'y repensais, mais surtout des échanges à ma soutenance où la présidente du jury, Nassira Djerassi, qui travaille, elle est PU à l'INSPE Sorbonne, et elle travaille notamment sur Bellux. Et du coup, elle m'a parlé d'enseignants peut-être critiques, ou en référence aux pédagogies critiques, je trouve ça vraiment pas mal. J'avais utilisé déconstruit parce que les enseignants, en fait, utilisaient le terme être un peu déconstruit, ou il faut déconstruire tout ça, et du coup, j'avais comme repris la catégorie... endogène, quoi. Mais effectivement, critique, c'est pas plus mal. Et avec cela, ouais, j'ai eu beaucoup d'échanges, bah parce que la question les intéresse. Donc, ils m'en ont parlé, et puis, bah, y en a, c'est devenu des copains, ou c'était des copains, et donc, ça a nourri des échanges entre nous. Et puis, puis, quand ils se posaient des questions, quand ils étaient face à des situations de classe ou des thématiques comme ça, ils avaient tendance à m'en parler, parce que, genre, les gars, ils s'imaginaient que j'étais experte sur ça, alors que... Bah, moi, sur la dimension pédagogique, c'est vraiment un chantier permanent, et... En fait, j'ai beaucoup de questions et pas forcément beaucoup de réponses, quoi. Et par contre, d'autres enseignants, ils ont fait l'entretien pour me rendre service, pour être sympa, parce que voilà, solidarité professionnelle et tout. Mais ils m'en ont jamais reparlé. Je pense qu'il y a des enseignants qui auraient beaucoup de mal à en parler parce que ça renvoie aussi une image qui n'est pas forcément valorisante de la profession. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut balayer et abandonner, la question de valorisant ou pas valorisant. Parce que je crois que la question du rapport à la race, c'est pas une question morale. Enfin, c'est aussi une question morale, et c'est hyper dur de pas avoir un regard moral sur ça et de pas le condamner moralement. Évidemment qu'on le condamne. Mais en fait, c'est une question politique avant tout. C'est une question politique, de rapports sociaux, de rapports de pouvoir, et puis aussi d'effet de ces discours et de ces pratiques sur les trajectoires des élèves, leur trajectoire scolaire et leur trajectoire sociale ensuite. Donc pour moi, c'est une question même de santé publique, en fait. Parce que... on sait que quand on est pauvre, on vit moins bien, on vit moins longtemps, on est plus souvent malade. Enfin, il y a plein de choses en fait qui découlent de ça, qui sont dramatiques. Et du coup, c'est une question avant tout politique. Et du coup, moi, j'ai un espèce de gros projet là pour les 100 prochaines années, c'est de déracialiser l'école. Alors, je pense que c'est vachement long et je vais pas y arriver toute seule. Mais ce qui est cool, c'est que je suis pas toute seule en fait. Il y a plein de gens qui ont ce projet-là avec moi. Ça serait plus, ça. Ouais, en faire un bouquin, ça serait cool. Ça a été dit à ma soutenance que ça serait bien d'en faire un bouquin. Après, comme elle est vachement longue, il faisait des blagues, genre, faudra en faire deux, faudra en faire trois. Et c'était rigolo. Mon projet, en fait, ça serait que finalement, Ça serait de déracialiser l'école, c'est-à-dire que dans l'espace scolaire, en fait, la question raciale, elle soit tout aussi insignifiante que la taille des pieds des gamins, quoi. Et ça, c'est possible, en vrai. C'est-à-dire qu'il y a plein de leviers, en tout cas, non pas pour que l'école soit vraiment, genre, 100% déracialisée, mais pour que la race soit moins saillante. Et ça, il y a des outils pour ça, et il y en a plein qu'on connaît déjà. Donc je me dis, ça serait cool de les mettre en œuvre.
Mais justement, lesquels, en fait ?
Je pense sur la formation des enseignants. Alors, on me dit tout le temps, ouais, on fait porter plein de trucs sur la formation, faut former. Ouais, faut former, en fait. Et la question raciale, elle est absente de la formation. Du coup, il y a cette espèce de gros tabou, comme ça, où on n'en parle pas, et puis comme ça, c'est cool, ça n'existe pas, c'est dans notre poche avec un petit mouchoir dessus. Sauf que moi, ce que j'ai observé, c'est ce que mes données de terrain révèlent, c'est que mine de rien, le groupe d'enseignants déconstruits, critiques, machin, soit ils appartiennent au groupe minoritaire, soit ils sont en couple avec une personne qui appartient à un groupe minoritaire, soit, ou les deux, hein, ou les trois, ils ont fait des études de sociaux. Ou bien ils se sont formés à ces questions-là dans des espaces militants. En tout cas, il y a une réflexion sur ça. C'est un vrai problème de ne pas savoir qui on est, quelle est notre place dans ces rapports de domination, dans ces rapports d'oppression, dans ces rapports inégalitaires, et de ne pas identifier les différents sites d'oppression. Et ça, il y a les trucs de Paulo Freire, les trucs de Baloux, mais en tout cas, on a des clés, on a des pistes sur la pédagogie, qui est la pédagogie qui peut être mise en œuvre dans les espaces de formation des enseignants, et puis ensuite dans les classes, donc ces pédagogies critiques et émancipatrices, qui permettent de dénaturaliser les rapports de domination. Il y a des outils qui permettraient de mettre en évidence toutes les procédures qui sont manifestement discriminatoires, qui emportent des conséquences discriminatoires. Donc on peut les identifier, pas toutes. On manque de statistiques ethniques. Et ça, je pense que c'est un outil qui est vraiment pas mal. Mais en tout cas, voilà, identifier les procédures qui sont manifestement discriminatoires pour les bloquer. Et proposer aussi des outils de rétablissement des inégalités, de la positive action. J'aime pas discrimination positive, c'est pas de la discrimination, c'est juste qu'il y a une injustice et un moyen de rétablir l'injustice. Donc c'est de l'action positive, quoi. Et donc, ouais, je disais, les statistiques ethniques, ça peut être pas mal parce que ça a été vraiment chouette pour les femmes à un moment. Aujourd'hui, en France, la lutte contre le racisme, ça repose sur des plaintes individuelles. Et donc ça fait peser sur les individus par la lutte contre les discriminations. Le problème, c'est qu'on est sur un morcellement de l'action. Et en plus de ça, les individus, ils vivent ça au quotidien, c'est compliqué, ils en souffrent. Qu'est-ce que ça veut dire aussi porter plainte quand t'es investi dans un espace professionnel et que ça peut avoir des conséquences, psychiquement c'est pesant, ça ajoute à la charge raciale en fait. Sauf que si on fait des stats, on se rend bien compte que y a des espaces où les minorités n'existent pas, n'apparaissent pas. Et ces espaces sont des espaces qui sont massivement blancs. Et là on se dit, y a peut-être une discrimination directe, indirecte, peu importe, en tout cas systémique. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la positive action et puis on met des quotas, quoi. Et ça, on l'a fait pour les femmes. Et ok, c'est controversé, sauf que ça fonctionne et ça permet aux femmes d'exister politiquement, médiatiquement, d'exister un petit peu plus, quoi, on va dire. Ça, c'est un levier aussi. Et pourquoi pas dans les concours de recrutement des enseignants ? Moi, ça m'étonne, parce que je vois lycée général, collège, école primaire, les enseignants, ils appartiennent massivement au groupe racial majoritaire. Et lycée pro, oh waouh, beaucoup moins déjà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est dans les procédures de recrutement ? On se dit, lycée pro, c'est que des Noirs et des Arabes, alors on va leur mettre des profs qui leur ressemblent. C'est possible, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe inconsciemment dans la tête des gens ? Tu vois ? Et puis, qu'est-ce qu'il y a aussi comme frein ? Il y a beaucoup d'élèves, des enseignants m'ont rapporté ça, et je l'ai déjà entendu aussi d'élèves, qui disent « maîtresse, c'est un métier de blanc ». Et en fait, c'est peut-être à prendre très au sérieux, ce truc-là, où les élèves n'arrivent pas à se projeter dans cette profession. Les enfants, mais après, ils deviennent des adultes, et après, c'est des adultes qui peuvent ou qui refusent de passer certains concours. Pourquoi ils ne s'y sentent pas légitimes ? Et ça, c'est quelque chose qu'on entend, que les gosses y disent, quoi. « Maîtresse, c'est un métier de blanc ».
Là, pour le coup, je trouve que ça rejoint beaucoup les approches intersectionnelles où, par exemple, sur la question du genre, ça a été beaucoup montré qu'une petite fille qui n'a pas de modèle de femme scientifique ou femme X ou Y, elle ne va pas se dire « je peux y arriver ». Donc on peut se dire que c'est exactement les mêmes schémas.
C'est la question raciale, évidemment. Là, pour le coup, il n'y a pas de raison que ça marche différemment, quoi. Et il y a des études qui ont montré que le critère racial, c'est un critère très fort d'autodéfinition pour les minoritaires. Ils se définissent à partir de ça, de « je suis noir, je suis maghrébin, je suis » ou alors avec des syntagmes qui renvoient à un pays, d'origine plus ou moins lointaine et plus ou moins idéalisée, mais voilà, genre je suis comorien. On se définit comme ça. Et du coup, si on se définit comme ça, eh ben, on va regarder qui nous ressemble dans des espaces pour savoir si on y est légitime ou pas. Donc ça, c'est potentiellement un levier de déracialisation. Et puis en plus, voilà, ce que je disais, ce que je montre dans ma thèse, ce que mes données me montrent, c'est que les enseignants qui appartiennent aux groupes minoritaires racialisent beaucoup moins, assignent beaucoup moins à l'altérité raciale. Donc peut-être que ces enseignants, en fait, ils seraient bénéfiques, quoi. Ça serait une sorte de thérapie pour l'école et pour la racialisation des élèves.
D'autant que j'allais dire aussi que plus ce sera un phénomène qui n'est pas encore courant, plus ce sera difficile pour les personnes qui justement vont se permettre, puisque c'est un peu ça. Parce qu'en fait, j'imagine aussi que le groupe du « nous », dans une salle des profs, etc., il est compliqué aussi pour une personne qui fait partie de ces minorités, parce qu'en fait, on est constamment rapproché à ça aussi. Et donc, j'imagine que moins on se rapproche du fait que, en fait, l'école dans le corps enseignant ressemble à l'école chez les enfants, et plus c'est compliqué aussi pour les enseignants qui sont à cette place-là.
Ah, mais complètement. Et ça, ils m'en ont parlé, en fait, les enseignants dans les entretiens, les enseignants qui appartenaient au groupe. Enfin, je vais dire les enseignantes, en fait, parce que c'était quasiment que des enseignantes. Les enseignantes qui appartenaient au groupe minoritaire, elles en parlaient du fait que, ben, souvent, en fait, elles se sentaient différentes. Et avec toujours ce truc de « mais est-ce que c'est pas moi ? Est-ce que je suis pas parano ?» Donc une difficulté aussi à qualifier le racisme, d'autant plus que ce nous professionnel fortement racialisé, c'est un nous professionnel qui est assez bizarre, qui a géométrie variable et qui va quand même englober les enseignants minoritaires. Donc ils sont pas exclus du nous. C'est comme s'ils étaient blanchis par leur profession. Et avec ce truc de « toi c'est différent, toi » parce que ben, y a aussi une question de classe sociale et d'appartenance à un corps professionnel qui fait que la race est moins saillante. Et en même temps, pour les enseignants qui appartiennent au groupe minoritaire, la violence raciale peut toujours surgir, elle peut toujours faire éruption, dans des moments totalement inattendus. Et donc la vigilance est permanente, et la violence aussi peut le devenir. C'est-à-dire qu'il y a un état d'alerte permanent. Il y a une enseignante qui me racontait que bah, pour elle, la période du Ramadan, c'était super galère, parce qu'elle se disait à la fois « j'ai envie d'aller en salle des maîtres pour discuter avec mes copines, avec... voilà ». Et en même temps, je sais très bien qu'on va régulièrement me demander « mais tu manges pas ? Mais pourquoi tu manges pas ?» Et qu'elle avait déjà eu des remarques, elle me disait qu'il y avait une enseignante qui lui avait dit « mais toi, tu fais le Ramadan ?» Comme si sa pratique religieuse était une trahison à la fois à leur relation plus ou moins amicale, mais aussi au corps professionnel. Et donc elle me disait « voilà, il y a toujours en fait, des moments où ça peut faire éruption, et donc l'état d'alerte est permanent, et donc c'est quand même vachement usant. » Après, moi, je n'ai pas trop travaillé sur ça. Fabrice Dume a travaillé là-dessus. Il a fait une grosse enquête sur ça. Il a un article qui vient d'être publié, je crois que c'est dans Mouvement, où il montre, enfin, les enseignants, donc c'est à partir d'entretiens, qui font le récit de ça, de stratégies qu'ils mettent en place. Il y a une enseignante qui raconte comment elle va à la photo. Elle cale ses horaires de photocopieuse pour ne pas trop croiser ses collègues, parce que c'est trop hardcore, quoi. Donc, il y a une souffrance professionnelle des enseignants qui appartiennent au groupe minoritaire. Et effectivement, bah, s'ils n'étaient pas tout seuls, genre... pauvres enseignants minoritaires par école, parce que, bah, mine de rien, ces enseignants sont très rares. Pour eux aussi, la survie professionnelle serait moins douloureuse.
Et du coup, tout ça, mis bout à bout, qu'est-ce qui vous donne envie de crier ?
Moi, je crie pas assez, en fait. C'est ça, le problème, hein. C'est que moi, j'ai tendance à trop fermer ma gueule. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où je suis dans mon boulot, où je suis face à des gens, et voilà, l'entretien que je te racontais, bah, j'ai pas crié. Mais en fait, on crie parce que le monde, il est dégueulasse. Et que c'est vraiment injuste. Et que toutes ces histoires-là dont on parle, genre, ouais, j'ai fait une thèse et tout, nanana, mais qu'est-ce que ça raconte en termes de destin, en fait ? Et en termes de trajectoire scolaire, où il y a des gosses qui sont géniaux, et qui pourraient faire des choses géniales, et qui sont brisées par le système scolaire. Donc il faut crier pour ça, et moi je trouve que je crie pas assez, ça c'est pas cool.
Mais les cris peuvent être un cri.
Ouais, non, mais des fois il faut coller des patates en fait. Je pense que parfois, moi je crois à la violence comme une arme politique, c'est-à-dire que je pense que si aux États-Unis les Noirs américains ils avaient pas brûlé des bus, ils auraient pas eu l'égalité des droits. Et la violence n'est qu'une réponse, la violence militante, hein. Ben c'est pas un choix. C'est que les mecs en face, ils sortent des armes et on est obligé de s'aligner sur leurs propres armes. Parce que sinon, on est juste des pauvres nasses qui baissent la tête, quoi. Mais on ne peut pas prendre des coups sans jamais les rendre. Et en fait, on choisit jamais la forme d'une lutte. On choisit jamais les armes qu'on utilise. C'est les dominants qui imposent la forme de la lutte, les armes qu'il faut utiliser et la violence de cette lutte. Et la domination raciale, c'est quelque chose d'extrêmement violent, quelque chose qui vient s'immiscer dans tous les espaces de la vie, y compris de la vie privée, de la vie amoureuse. Parce que ben, quand on n'est pas blanc, on peut être en couple avec quelqu'un qui est blanc. Et même là, la violence raciste peut faire irruption comme ça. Mais parfois de manière très, très feutrée et très... paf, mais elle est là, quoi. La question raciale, elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là. Et ça, c'est violent. C'est cette permanence, quoi. C'est ce que Philomena Essad appelle le racisme du quotidien. C'est tout le temps là. Et donc, ben, face à cette violence-là, moi, je dis... Il y a des fois où j'aurais dû coller des patates, je ne les ai pas collées. Et ça, c'est grave, la honte.
Et aujourd'hui, vous êtes enseignante, pour le coup, toujours. Ouais. Vous avez envie aussi de continuer les recherches en parallèle ou
ah,
c'est
oui,
trop
grave. Non. Moi, j'aimerais vraiment continuer. Moi, j'aimerais bien faire... Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir peut-être une dispo ou prendre un temps partiel et faire de la recherche. Là, j'ai vraiment envie de prendre du temps pour la recherche. Vraiment. Mais je pense qu'après, revenir à l'école. Mais là, il y a un truc que j'ai pas fini. Parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé du coup sur les pratiques des enseignants. Et j'ai pas parlé des publics et de la manière dont ça crée des socialisations raciales. Et comment ça prenait aux élèves à se percevoir comme noirs, comme arabes, comme blancs. Et la manière dont ces catégories sont signifiantes dans le monde social, dont ils apprennent à occuper une place en fait, dans la société. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais approfondir, du coup, sur les publics, sur la question des socialisations raciales. Donc, c'est ça que j'aimerais bien faire, maintenant.
Alors, on vous dit à bientôt.
Ah bah oui, à bientôt.
Merci, Laura Foy.
Avec plaisir. Oh, what a lovely, precious dream.
C'était Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche, Culture et Territoire. Réalisation, Colline Charbonnier.